Ma position d'historien, c'est que enfin, personnel, on n'est pas forcément tous d'accord. L'histoire avance, elle est faite de choix à un moment par des sociétés. Les ruines du château de Hohenzollern ont été dynamitées par la RDA au début des années 50. On a construit le Palais des Républiques, qui a été un lieu de socialisation pour une grande partie de la population est-allemande, qui a été un lieu politique important pour la RDA aussi. On décide de détruire le palace alors que ça aurait coûté moins cher de le réorganiser pour construire un truc kitsch que je trouve personnellement mochissime. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Enfin,
Tu peux
pour moi, c'est
ajouter
du
quelque chose?
révisionnisme historique, mais...
Si je voudrais dire quelque chose, Elisa?
Juste là-dessus,
Oui.
c'est pas une histoire d'être moche ou kitsch, c'est aussi qu'on
En
a dit
plus.
pendant 40 ans aux gens en RDA que ça symbolisait la noblesse, le militarisme prussien, tout ce qui avait mené à l'hitlérisme. Et tout à coup, il faut qu'on dise, ah non, finalement, c'était pas si mal, le militarisme et la noblesse prussienne. Enfin, donc, c'est pas juste l'aspect
Non, et
moche
puis,
et
mais
kitsch.
c'est effacer aussi l'histoire de la RDA de l'histoire allemande, quelque part.
Mais ça,
Et ça, c'est
clairement.
problématique parce qu'on fait, à juste titre, on revient énormément sur l'histoire du nazisme dans l'histoire de l'Allemagne. Et l'Allemagne a été, enfin, la RFA a été moteur dans cette volonté de prendre en charge l'héritage historique du nazisme. Et par contre, la RDA, on l'efface parce que.
C'est-à-dire, là, il y a une concurrence des mémoires. Étienne,
Oui, bah, je
François?
voulais d'abord vous poser une question à Elisa
Oui.
sur la manière dont vous
Question.
avez fait les interviews. Parce que, vous le savez comme moi, la mémoire, elle part du présent. Et la mémoire, elle est tout le temps en reconstruction. Donc, est-ce que vous avez pu, dans les dialogues que vous aviez avec les personnes que vous interrogiez, voir aussi comment elles avaient elles-mêmes réécrit leur passé dans la manière dont elles vous le disaient?
C'est pas moi qui ai fait moi-même les entretiens, c'est Agnès Harpe.
Oui.
Ça m'a servi de source et moi j'écris et elle fait. En fait, c'est des entretiens semi-directifs. Elle commence juste par dire racontez-moi votre vie, votre naissance, votre parcours. Et puis quand elle voit que des choses justement sont réécrites à l'aune du présent, elle essaie de creuser là-dessus et elle enregistre et ça donne un matériel. Enfin, c'est des matériaux évidemment qui sont riches parce qu'en effet, on perçoit 30 ans, c'est une très grande période en fait. 30 ans, c'est très
Une
long.
génération.
C'est très long et donc on voit plus du tout aujourd'hui ce qu'on a vécu en 90 de la même façon que sur le coup. Et c'est ça qui est intéressant dans cette distance justement qu'on a, beaucoup plus qu'il y a encore 10 ans même. 30 ans, ça devient vraiment une longue période. Et donc voilà, elle serait plus à même de répondre à comment exactement elle a relancé la discussion quand elle se. Voilà, semi-directif, ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas, elle essayait de faire jouer les associations d'idées beaucoup, de laisser la parole très libre. C'est pour ça qu'il y en a un qui a parlé 9h15. C'était celui justement qui était pour le coup un IM et pour qui la chute du mur, c'est une contre-révolution. Il dit contre-révolution, lui. Donc lui, il a vraiment une perspective de loyauté vis-à-vis de ce régime dû au traumatisme du nazisme. Il est exactement dans ça. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on évoque assez peu, mais ça joue un rôle très, très important en fait. Le traumatisme du nazisme.
Oui.
Donc, il est besoin d'en parler pendant 9 heures, c'est à mon avis très très intéressant.
Alors moi je voulais un petit peu, c'est pas moins des
Ce
questions
sera la
pour vous, mais un
dernière
complément de
question.
ce que vous disiez que je trouvais très bon, c'est d'abord la manière très sélective dont il y a eu une reconstruction de Berlin en entier, avec la destruction d'un certain nombre de traces de la RDA et d'autres qui ont été gardées. Je prends un seul exemple. Vous connaissez tous par le film la statue de Lénine qui a disparu, mais en revanche, la statue de Marx et de Engels, elle est toujours là. Parce que eux, c'est des Allemands. Et je suis sûr que la dimension nationale a joué un rôle là-dedans. Alors, ce n'est pas des Allemands dont on est nécessairement fier, mais n'empêche que ce sont des Allemands. Donc là, ça, c'est vraiment très frappant dans la reconstruction et la sélection des choses qui se font. La deuxième chose, vous évoquiez l'importance de la porte de Brandebourg. Oui, mais parce que la porte de Brandebourg, c'est un des lieux mémoire allemand par excellence. Et depuis le XVIIIe siècle, et pas seulement depuis aujourd'hui. Donc, ça permet à la fois de coupler l'histoire contemporaine et une histoire de plus longue durée. Pour en revenir à 2009, moi je me rappelle, j'espère que je ne me trompe pas dans mon souvenir, qu'en 2009, la manière dont ça avait été mis en scène avait été terriblement occidentale. C'est-à-dire qu'on avait fait comme si c'était une histoire uniquement allemande, due à la victoire des pays occidentaux, qui avait fait qu'au fond, le bloc soviétique s'était effondré. En dernière minute, on a même se dit qu'il faudrait peut-être inviter Walenza ou quelques autres, parce qu'eux, ils ont fait plus. Et alors, c'est ça qui est très irritant, dans un certain point de vue, c'est que la chute du mur de Berlin est interprétée comme l'expression par excellence de l'effondrement du bloc soviétique, alors que le rôle de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, et bien sûr de la Russie avec Gorbatchev, était bien plus important. Mais ça,
et des citoyens
est-allemands. la valorisation extrême du mur de Berlin, il y a cette idée que le mur de Berlin et la frontière entre les deux Allemagnes, c'était la même chose. Mais ce n'est pas exactement la même chose. D'abord parce que la frontière entre les deux Allemagnes, elle est devenue infranchissable à partir des années 1950, tandis que le mur de Berlin, c'est 61. C'était la seule porte ouverte de la frontière entre les deux Allemagnes. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier que la Berlin-Ouest, c'était une provocation permanente pour la RDA. Et le fait que Berlin-Ouest se trouvait au milieu de la RDA, plus proche de la Pologne que de l'Allemagne de l'Ouest, c'est une des explications pour le fait que la RDA n'a jamais réussi à devenir autonome. Parce que la RDA aussi, on le voit très bien dans les études, je ne sais pas comment on le dit, des personnes interviewées, mais la référence pour les habitants de la RDA, c'est toujours la RFA, depuis le début jusqu'à la fin. Soit qu'on s'identifie à elle, soit qu'on veuille se dissocier, mais c'est toujours, et c'est jamais, la RDA en tant que soi. Et alors, dernier point, puis j'arrête. Pour ceux d'entre vous qui retourneront à Berlin, dans le mémorial de la Bernauer Straße, allez aussi voir quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est la Versöhnungskapelle. On a construit une petite chapelle à l'endroit où il y avait une église qui était juste à côté du mur et que la RDA a fait exploser parce qu'elle gênait justement la construction du mur. Et après la chute du mur, il y a eu reconstruction d'une chapelle, une chapelle de la réconciliation. C'était le nom de l'église entre-temps. Et aujourd'hui, c'est une chapelle qui essaye de pratiquer le dialogue entre les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest, et qui a un rôle, je trouve, très important. Et puis, dernière remarque, si vous me permettez. Vous disiez qu'on reconstruit tout le temps le mur. Oui, c'est vrai. Mais s'il y a bien une ville dans laquelle tout est pastiche, c'est Berlin. Quand vous allez dans le Gendarmenmarkt, il paraît superbe, mais tout a été reconstruit après la guerre. Et le château des Hohenzollern est totalement aussi, c'est un pastiche. Donc, et il y a des tas d'autres choses. Donc, de ce point de vue-là, la conception du patrimoine à Berlin est assez différente de la construction de la conception du patrimoine qu'on peut avoir en France, mais peut-être pas tellement de celle qu'on pouvait avoir en France au XIXe siècle, à l'époque de Viollet-le-Duc.
Merci beaucoup.